nous accapare, nous turlupine, peut-être plus encore, mais surtout touche à notre foi. Un temps où, comme ce matin, nous allons ensemble nous pencher sur un pan de notre foi, un questionnement, comme je l'ai dit, qui nous taraude et sur lequel, alors que ce soit moi ou l'un de nos anciens lors d'une prochaine fois, nous avons à cœur de vous laisser des éléments bibliques afin de vous édifier dans la foi et de vous équiper plus encore pour affronter les difficultés de notre quotidien. Super, merci, voilà. Alors, de plus, et j'arrive juste à ce moment-là, la question que nous allons nous poser ce matin, ensemble, même si vous aviez peut-être déjà réponse à cette question, nous allons quand même prendre le temps de partager. Dieu change-t-il d'avis ? Alors, grande question, peut-être, mais dit comme cela, cette question peut surprendre. Dieu change-t-il d'avis ? Mais je pense qu'elle demeure pertinente, du moins la question. Après, la réponse sera encore plus pertinente une fois que nous l'aurons. Surtout quand nous lions notamment ce questionnement à différentes choses dans notre vie et pourquoi pas notre vie de prière. Dans ma vie de prière, dans cette relation particulière que j'ai avec Dieu, est-ce que Dieu peut venir à changer d'avis ? En fonction, bien sûr, de ce que je peux lui dire. En effet, quand je prie avec persévérance pour une situation ou douloureuse ou pour une épreuve que je viens à traverser ou quelqu'un de proche ou un frère ou une sœur, peu importe, Dieu va-t-il changer d'avis ? Ou encore, pour reposer la question un peu autrement, on est juste dans le stade où on ouvre un peu les portes et les volets, ou encore, ma prière peut-elle amener Dieu à changer sa réponse ? Peut-elle l'amener à opter pour autre chose si je le prie ardemment, avec foi, si vous préférez ? Voilà peut-être l'une des questions à laquelle on va essayer de répondre ce matin ensemble. Alors, il y a parfois des exemples bibliques, on ne va pas tous les reprendre, mais des moments où des hommes ou des femmes de foi intercèdent auprès de Dieu et nous percevons comme un changement. Comme un changement. Je vais en évoquer quelques exemples tout à l'heure. Mais tout au long de ce partage, je vous propose de nous appuyer notamment, ou plutôt surtout, un peu plus tard, sur l'histoire de Jonas. Pour trouver illustration à notre questionnement. Tout en allant, bien sûr, nous appuyer sur d'autres passages bibliques pour y trouver l'éclairage le plus solide qui soit pour nous. Et cette question, Dieu change-t-il d'avis, doit nous amener tout d'abord à revenir à Dieu, à ce qu'il est, à son identité profonde et aux affirmations que la Bible nous rappelle en maintes occasions. Alors, j'ai déjà zappé les deux, trois questions, voilà. J'ai mis des repères, mais je les ai oubliés. Alors, j'aimerais, pour l'instant, me poser la question dans l'absolu sans l'associer à notre vie de prière. Déjà, essayer de regarder à si Dieu change-t-il, avant de regarder à son avis et notamment à notre vie de prière. Autrement dit, Dieu peut-il changer ? La question est là. Ou encore, Dieu est-il un Dieu changeant ? Ça revient au même, hein, dit d'une autre manière. Un Dieu dont, pourquoi pas, la vie, les décisions peuvent évoluer avec le temps, selon les époques, etc. La question est posée. Je ne dis pas qu'elle est bonne, mais je préfère la poser. Partons tout d'abord d'un fait biblique, indiscutable. Présent en main de passage, mais je vais au moins en prendre un pour illustrer ce que dit la Bible, que l'on peut appuyer sur un verset tel que celui, par exemple, de Malachie 3, verset 6, qui dit, et c'est sa parole, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Bon, la parole est posée. Mais à partir de ces différentes choses, et notamment de cette simple parole, mais qui se veut très claire et limpide, ayons conscience d'une chose ensemble ce matin. Dieu n'est pas limité par le temps. Je ne fais pas de la philosophie, je m'intéresse à ce que Dieu est. Dieu n'est pas limité par le temps, non pas seulement qu'il est éternel, qu'il durera toujours, toutes ces expressions que nous avons d'ailleurs parfois même dans nos prières ou nos chants, mais qu'il n'est pas du tout influencé par le temps lui-même. Le temps n'a pas d'impact sur lui. Le temps ne peut influencer Dieu. Pourquoi je peux le dire ? Pourquoi je peux l'affirmer ? Alors cela peut paraître étonnant, de dire que Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas influencé par le temps. Mais c'est important d'asseoir cela, d'asseoir de bonnes fondations dans notre foi, je crois. Oui, Dieu n'est pas limité, influencé par le temps, car il en est tout simplement le créateur. Le temps n'existait pas avant que Dieu ne soit. Il est, de toute façon, on ne peut même pas l'utiliser au passé. Dieu est, et le temps fut à partir d'un moment, quand Dieu l'a décrété. Le temps est une création. Le temps n'était pas quelque chose qui existait aux côtés de Dieu, dont Dieu dépendait. Je sais que j'use un peu de choses qui semblent un peu hors de toute chose, mais c'est la réalité. Et vous allez voir à quel point cela a des conséquences pour nous, dans la question que nous nous posons. Dieu, comme je l'ai dit, est de toute éternité, avant même que ce temps fût. Car le temps, celui qui s'écoule pour nous, qui fait que nous vieillissons, que nous commençons à grincer de partout, et qu'on sent qu'il a sur nous une influence, ce temps. Le temps fait aussi partie de sa création. Alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce qu'on pourrait partir loin, mais alors très loin, voire même, pourquoi pas, des années-lumière, et s'y perdre un petit peu. Mais admettons cela. Gardons cela comme une certitude qui nous est donnée. Dieu a créé toute chose. S'il a créé toute chose, le temps en fait partie. Alors, qu'est-ce que cela signifie à propos de Dieu ? Alors, est-ce que ça veut bien marcher ? Oups, toujours un peu en retard. Pour l'homme, ainsi d'ailleurs que toute sa création, toutes ses créatures, mais toute sa création, le temps a une influence sur nous. Par les changements physiques et, ou intérieurs que l'on observe au fil de ce même temps qui passe. Mais quant à Dieu, il n'en est rien. Il n'en est strictement rien. Le temps n'a aucune influence sur Dieu. Désolé de me répéter, mais je tiens à l'affirmer un peu fort ce matin. Après tout, on imagine mal quelque chose que Dieu aurait créé qui l'obligerait lui à changer. Dieu, rappelons-nous, n'est pas dépendant de sa propre création. Et c'est pour cette raison qu'on le peut dire et affirmer à travers d'autres passages bibliques qui disent d'autres choses, mais qui viennent à cette même réalité, Dieu ne change pas. Ou en un autre mot que je vais peut-être employer un petit peu ce matin, Dieu est immuable. Il n'y a rien qui peut changer en lui. Et croyez-moi, c'est très important pour nous, dans tous les aspects de notre vie. Rien en lui n'est sujet à évolution, à transformation ou à changement. Ce que d'ailleurs affirment les Écritures, comme dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, où nous entendons ceci, j'espère que vous arrivez à le lire là, à côté de moi, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. » Ça, nous le savons. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Bon, ce n'est pas Malachi, ici c'est Jacques qui le dit, il l'exprime avec d'autres mots, mais il revient sur cette même réalité. Dieu ne change pas, Dieu est immuable. Alors, pourquoi commencer par affirmer ceci, par rapport à la première question que nous nous posons et qui nous intéresse un peu plus ce matin ? Je réemploie encore un peu ce grand mot, ou ce gros mot, c'est comme vous voulez. Pourquoi commencer par affirmer ceci ? Voilà, toujours un peu lent. Parce que le fait qu'il ne change pas, parce que l'immuabilité, pardonnez-moi le mot, mais il est là, de Dieu, qu'il n'y ait pas d'ombre, l'ombre d'une variation en lui, pour reprendre Jacques, est fondamentale dans notre foi chrétienne. Fondamental car c'est un socle, car c'est sur ce socle, pardon, que reposent ses promesses. S'il nous a promis quelque chose il y a même fort longtemps, cette promesse demeure. Elle n'a pas vocation à changer. Même chose pour ses décrets. Ce qu'il a décrété ne peut changer, car il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Plus encore, quelque chose qui nous touche plus personnellement ou directement, sa fidélité. Si Dieu a dit « Je suis fidèle », et s'il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui, à quel point imaginons-nous qu'il demeure fidèle ? Quand un époux et une épouse se promettent fidélité, nous savons qu'il va y avoir difficulté, même avec la bénédiction de Dieu. Mais quand Dieu lui dit « Je suis fidèle », sachant qu'il ne peut y avoir absolument pas de variation en lui, sa fidélité est pour nous quelque chose presque que nous n'arrivons pas à complètement saisir. Mais il est fidèle. Et reprenons encore quelque chose d'autre. Sa parole, sa vérité demeure à jamais parce qu'il ne change pas. Bref, on peut le décliner. Mais le fait qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui, qu'il est immuable, affirme tout cela autour. Alors, voilà, je vise large, mais je vais quand même un petit peu illustrer. Peut-être si jusqu'ici c'était peut-être un tout petit peu dans des hautes sphères et qu'on n'arrivait pas à saisir cela. Imaginons un instant que ce que je viens d'affirmer, et qui pour moi est indispensable à notre foi, Dieu ne peut changer. Imaginons que ce soit le contraire. On fait une parenthèse, je ne dis pas que c'est vrai. Dieu, lui qui est totalement parfait, absolument parfait, ça je n'y touche pas, ce n'est pas de cela que je discute ce matin, en toute chose, pourrait venir à changer. Lui, le parfait, peut changer. Qu'il puisse changer, ne serait-ce que d'un trois fois rien, ne serait-ce même que d'un iota, pour reprendre une de ces expressions que nous avons. Lui qui est parfait, s'il vient à varier d'un iota, quelles conséquences cela aurait? Alors, j'attends toujours que ça réagisse. Voilà, l'informatique et ses joies. Si Dieu venait à changer, comme il ne peut pas s'améliorer, il est parfait, je vous le rappelle. Quand on est au top, s'il vous faut changer un petit peu, dans quel sens ça va se faire à votre avis? Voilà. Quand on est tout en haut, et si vous avez l'occasion d'être transformé, d'évoluer, de changer, vous ne pouvez qu'en descendre. Vous perdez de votre perfection. Voilà la conséquence. Si on veut croire que Dieu puisse changer, dans l'absolu, je raisonne pour l'instant encore dans l'absolu. Autrement dit, ce serait à coup sûr un Dieu moins parfait qu'il ne l'aurait été auparavant. Dieu perdrait de sa superbe. Dieu abandonnerait sa perfection pour changer. Pour plier à ce que nous lui demandions. Bon, là, j'ouvre déjà une petite parenthèse pour tout à l'heure. Mais ce que je dis là, bien sûr, est inconcevable, est impossible, car en raisonnant, comme on l'a fait ici, par l'absurde, c'était le but, on vient en contradiction totale avec ce qu'affirment continuellement les Écritures. Dieu est parfait et demeure à jamais parfait, puisqu'il n'y a pas de changement en lui, puisqu'il est immuable. Aussi, arrivé à ce point, réjouissons-nous d'une chose, à savoir que parce que Dieu ne change pas, parce qu'il est immuable, hop, à chaque fois j'en oublie de prendre le fil de mes diapos, il me faudrait presque un assistant, je crois. Nous avons l'assurance de sa fidélité. Nous avons l'assurance que sa parole restera à tout jamais la vérité. Aussi, nous pouvons vraiment la prendre pour ce qu'elle dit. Et quelque part, justement, interpeller Dieu dans ce qu'elle dit, en lui disant, mais Seigneur, montre-moi ce que tu affirmes là. J'ai besoin encore de l'entendre. Et cela, d'ailleurs, peu importe nos époques, nos interprétations. Sa parole demeure la vérité. Qu'elle peut être sans cesse remise en question sur telle et telle chose. Notre société a tellement évolué que l'homme se voudrait beaucoup plus intelligent qu'il l'a été les siècles passés, se permet d'aller critiquer tel et tel point biblique. En nous en disant, oui, mais autrefois, quand ils ont écrit cela, bon, on sait qu'à quel point ils étaient misogynes, barbares, etc. On ose qualifier les auteurs bibliques. On les rabaisse, et quelque part, on rabaisse aussi la parole de Dieu à travers cela. Or, il n'en est rien. À ce stade, nous pouvons donc affirmer ou réaffirmer, bon, ça marche vraiment pas bien, que Dieu ne change absolument pas en lui-même. Donc, comme je vous l'ai dit, si ça veut bien marcher, décidément, je crois qu'on n'a plus de piles ici. Tu peux passer à la suivante, ça va être juste pénible parce que j'en ai encore tout plein. Ouais, elle a rendu l'âme à mon avis, hein. Bon, au pire, on va faire 100, ou je dirais, je essaierai de faire signe à Mathieu, mais ça va être souvent. Quand il faudra changer, je te ferai un petit signe de la main. Ouais. Ah, bah, si tu, ouais, si t'as de quoi faire, merci. Reprenons maintenant, non pas juste la grande question que nous avions prise dans l'absolu, Dieu peut-il changer? Et revenons à cette partie-là, Dieu peut-il changer d'avis? Cette question que nous avions tout d'abord posée. Après tout, on pourrait se dire que un changement d'avis, hein, un changement d'avis n'affecterait pas la nature de Dieu, ce qu'il est, n'affecterait pas son être, ne toucherait pas à sa perfection. Après tout, quand vous changez d'avis, vous n'êtes pas tout à fait différent juste après, a priori. Ce ne serait juste qu'un avis. Nous arrêter sur un tel raisonnement, bien sûr, serait un tout petit peu trop léger et hâtif. Mais continuons. Si vous me suivez toujours, ça va? Alors, comme l'a tout à l'heure annoncé, je fais déjà une petite annonce au sein de cela. Mardi, nous aurons l'occasion de rediscuter et d'échanger et vous pourrez me poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Là, on n'en aura pas forcément le temps aujourd'hui. Mais la difficulté est là. Ah, super, merci. Je vais enfin pouvoir jouer de la zapette. Ah, ça marche. Merci au progrès. Alors, Dieu peut-il quand même changer d'avis? La difficulté n'est pas là. Comme nous l'avons fait, nous avons affirmé l'immuabilité de Dieu. Il ne peut changer, il ne peut y avoir l'ombre d'une variation en lui. J'aime vraiment cette parole de Jacques. Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation, l'ombre d'une variation en lui. Désolé si je me répète, mais je veux vraiment que vous l'entendiez. Or, comment comprendre par exemple, l'épisode de la prière d'Abraham pour les gens de la ville de Sodome, récit que l'on trouve en Genèse 18. Je vous invite pas à le relire là tout de suite, on n'en a pas forcément le temps. Je fais appel à vos souvenirs pour ceux qui se rappellent ce récit ou qui le connaissent. Mais Abraham intercède auprès de Dieu puisque Dieu lui a annoncé, mes anges vont aller là-bas et cette ville va être rasée. Et pas seulement juste la ville, tous ses habitants. Abraham, qui a aussi un parent proche, ben, son neveu, si je ne dis pas de bêtises, dans le lien de famille, Lot, et puis bien sûr tous les siens, intercèdent. Et puis on les entend, ben, on entend dans la prière d'Abraham, à chaque fois il y a un seuil, il dit, mais si tu trouves autant de personnes fidèles à toi, tu ne vas tout de même pas le faire. Puis Abraham sent que c'est un peu haut, il place la barre un peu, alors il la redescend, puis il la redescend, puis il la redescend. Alors, qu'est-ce que nous pourrions entendre là, dans tout ce passage-là? J'ose donner une interprétation qui n'est peut-être pas la meilleure qui soit. Mais je vous la soumets, juste pour l'instant. Dans ce récit de l'intercession d'Abraham envers Dieu à propos de la ville de Sodome et plus encore de ses habitants, doit-on y voir une habile négociation du patriarche Abraham avec son Dieu? Est-il un fin limier? Il sait négocier avec Dieu, il veut obtenir ce qu'il veut. À propos du seuil d'homme pieux dans la ville qui empêcherait sa destruction. Un peu comme lorsque, par exemple, si ça vous arrive, d'une vente d'un véhicule d'occasion, il y a le vendeur en face de vous, et puis bon, vous voyez la voiture, vous jaugez l'état, vous voyez ce qu'il y aurait à faire, ce qu'il a cherché à cacher, etc. Et puis, en habile négociateur, vous essayez d'amener le prix à la juste valeur du véhicule que vous avez en face de vous. Et puis, bien sûr, lui va essayer d'en tirer le plus. Bon, bref, et à un moment, on se rejoint, on trouve un prix médian, celui qui, quelque part, fait que tout le monde se retrouve. Et d'accord. Et puis, en général, on se serre la main. On est content. Nous avons réussi une bonne négociation. Est-ce que Abraham fait cela avec Dieu? Autrement dit, dans cette intercession, a-t-il permis à Dieu de changer d'avis sur ce qu'il allait faire à Sodome? Ou sur, du moins, le seuil du nombre d'hommes pieux qu'il pourrait y avoir et qui justifierait de raser ou non cette ville? Bon. Ne nous arrêtons pas là. D'autres exemples existent. On va en prendre que quelques-uns ce matin. Pardon, à chaque fois j'oublie de regarder là où je devrais intervenir sur la petite zapette. Prenons encore un passage en Jérémie qui est très fort. Que nous puissions le lire ensemble. Il apparaît là, j'espère que c'est assez grand pour vous. J'ai mis même en rouge des passages qui me semblent en lien avec ce que nous discutons, ce que nous voulons écouter de la part de Dieu. Écoutons sa parole. Une fois, je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine, tel Sodome par exemple. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Bon, ça ne sera pas le cas de Sodome, on le sait. Et si par contre, je parle de construire et de planter tel peuple ou tel royaume, mais que ce peuple fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Nous entendons cette parole de Dieu à travers la voix de Jérémie, et elle semble aussi nous aiguiller dans l'idée que Dieu peut changer d'avis. Tout comme tout à l'heure ce récit entre Abraham et son Dieu à propos de la ville et les habitants de Sodome. C'est pas si simple. On peut affirmer juste avant, avec force et tout, et puis de le vérifier bibliquement en disant « Dieu ne peut changer, il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui », et puis des passages comme ça qui nous suggèrent « Mais si, Dieu peut changer d'avis, il y a possibilité de changement, il peut évoluer, il peut revenir en arrière et le voir autrement, ou quelque part dans la discussion avec l'un de ses enfants, dire « Ah oui, peut-être ». Ou je vais faire comme tu le demandes. Or, est-ce que c'est cela, vraiment? Autrement dit, comment comprendre ces paroles de notre divin Père et Créateur? Ou, dit autrement, à l'image de ce que vous lisez là déjà, est-il obligé de réagir en fonction de nos manières? Ces décisions sont-elles soumises à nos dérives? Juste avant, dans Jérémie, on a l'impression qu'il crée quelque chose et quand ça ne va pas, vim, il est obligé d'intervenir. Ou alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, si tout d'un coup, ils viennent à changer, ah, bah non, je vais arrêter ce que j'allais faire, j'allais tous les raser. Je m'abstiens de le faire. Est-ce que Dieu dépend de nous, d'une manière d'être, de notre état pécheur ou non? Bref, on ne va pas trop épiloguer là-dessus, on va essayer de trouver réponse, bien sûr. Faisons simple. Et prenons à nouveau un exemple, celui que je vous ai annoncé tout à l'heure, bien plus tôt. Prenons l'exemple plus saisissant, c'est tout un long récit en 4 chapitres, qui fait parfaitement écho, notamment à cette parole de Jérémie, tout à l'heure que vous avez vu surlignée là. Regardons à l'histoire en Jonas. Là, c'est le passage de Jérémie hein, que je regarde encore une dernière fois. Une histoire qui commence ainsi. Et maintenant, venons-en à Jonas. Tadam, voilà. Lisons Jonas, chapitre 1, verset 1, voire aussi le verset 2. L'introduction au récit. Écoutons. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. On est dans un livre de prophètes, hein, ça commence souvent comme ça. On présente le personnage principal, le prophète lui-même, on dit peut-être parfois de qui il est né, etc. Continuons. Verset 2, ce qui m'intéresse plus encore. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » On entend un petit peu la même chose que chez Jérémie, sauf que là, ici, on est dans un cas concret, on n'est pas dans l'absolu. D'ailleurs, c'est une parole que l'on retrouve encore dans ce même récit de Jonas, dans son livre, un peu plus loin, lorsque Jonas, après avoir cherché à filer en douce, et rappelé, et va être remis sur le chemin que Dieu veut qu'il emprunte. Lorsqu'il accepte finalement d'aller à Ninive. Et voilà ce que nous entendons un peu plus loin. Là, c'est au chapitre 3. Entre-temps, il y a eu ce gros poisson, on ne sait quoi, peu importe. Reprenons et écoutons. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route. » « Va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » C'est un peu plus flou parce que ça fait référence à ce qui a été dit dès le début du récit. Mais c'est quasiment la même chose. « Vas-y et dis ce que je t'ai dit de leur dire. Bon. » De vous poser la question à propos de cette exhortation, de cet ordre donné à Jonas d'être le prophète à Ninive. Qu'entendons-nous ici? Qu'entendons-nous ici? Alors, est-ce que je suis dans la progression voulue? Oui. Dieu investit son prophète Jonas. Va à Ninive. De communiquer un message. Proclame, etc., etc. À l'adresse, bien sûr, des habitants de Ninive. Mais alors, et la question la plus intéressante pour moi, oups, c'était pas dans l'ordre. Mais alors, quel est le message que Jonas doit adresser aux Ninivites? Qui le connaît, le message qu'il doit adresser aux Ninivites? Quel est-il? C'est là-dessus très souvent que parfois nous faisons une petite erreur, une légère erreur. Le plus simple, vous me diriez, serait d'aller voir directement ce que Jonas dit quand il est à Ninive. N'est-ce pas la meilleure façon de trouver le message qu'il devait délivrer aux habitants de Ninive? Oui ou non? Oui. Donc allons chercher ce qu'il dit quand il est à Ninive. Chapitre 3, verset 4, alors je crois que la référence va apparaître après, c'est un peu dans le désordre, désolé. Le plus simple, c'est cela. Écoutons-le. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant, voilà ce qui nous intéresse, « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Point. Après, là, il n'y a plus d'autres messages, hein, on n'entend plus rien de sa part. Après, on voit la réaction des gens de Ninive, c'est tout. Mais voilà ce que la Bible nous fait entendre à propos du message que Jonas délivre aux gens de Ninive. Je la reprends. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Point. C'est bref. Ça a l'air d'être efficace, hein, quelque part. Mais si je devais résumer ici le message de Jonas tel qu'il nous est laissé, ça pourrait donner, en gros, mes chers Ninivites, vous êtes tous foutus. Vous avez encore 40 jours, mais vous êtes foutus. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu le redire de cette manière-là? Plus ou moins, plus ou moins. Pour autant, dans les premiers versets du livre de Jonas, ceux que nous avons lus juste avant, n'avions-nous pas déjà assez d'éléments, d'informations quant au contenu du message que doit proclamer Jonas à Ninive? Je reprends les choses. Alors, voilà. Je reprends le passage de tout à l'heure, le verset 2 du premier chapitre. Je lis dans une première traduction, marquée Sems et Semer, la Bible que j'ai le plus souvent l'occasion de lire avec vous. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants. Car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Tout à l'heure, je me suis permis d'interpréter, comme je l'entendais, comme je le voulais en tout cas, le message qu'on a entendu de Jonas. J'ai dit, en gros, vous êtes foutus. Genre, il n'y a plus de solution pour vous. Est-ce que c'était juste? Je ne suis pas sûr. Je prends encore une autre traduction, vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Cette fois-ci, dans la Nouvelle Bible Second, pas l'ancienne, la nouvelle, la meilleure. Ça, c'est pour Simon. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Il n'y a pas de grand changement. Et ici, juste la petite suite qui décline un peu autrement, mais même sens. Fais une proclamation contre elle. Car le mal qu'elle a fait monter jusqu'à moi, est monté jusqu'à moi, pardon. Peu importe la traduction, on entend la même chose. Si nous nous arrêtons à ces premières paroles, à ce que Dieu adresse, lui, à Jonas, ce de quoi il l'investit. Le prophète Jonas, ici, connaît cette mission. Alors, bien sûr, il prend la tangente, puis après va être ramené à bon port, et puis il va quand même y aller et le faire. Mais quel est, à partir de ces paroles de Dieu adressées à Jonas, quel est en substance le message que doit porter Jonas? Est-ce que c'est un message fataliste? Vous êtes foutus. Est-ce que c'est ça qu'il devait dire? Vous êtes tous morts. Même si vous êtes encore là, vous avez 40 jours, mais vous êtes tous morts. C'est un peu comme ça, hein, que je me suis permis de l'interpréter. Ou n'y a-t-il pas un autre accent qu'il faut entendre à la source de la parole que doit avoir Jonas à Ninive, dans ce que nous entendons là? Non pas dans la parole de Jonas qu'il a à Ninive, mais dans ce que Dieu lui dit à Jonas pour qu'il aille parler à Ninive. Proclame des menaces contre ses habitants parce que, etc., etc. Proclame des menaces. Quel est l'objectif, la finalité de la menace divine dont Jonas doit se le faire le porteur. Est-ce que c'est leur dire de toute façon qu'ils sont déjà morts, même si c'est dans un quelque temps, ou la menace n'a-t-elle pas aussi un autre objet? Est-ce que la menace n'a pas un but, plutôt que de leur annoncer que c'est foutu? C'est ça la question qu'il faut se poser, et ne pas aller trop vite en concluant sur ce que dit Jonas. Comme tout à l'heure, je me suis permis de le faire, en disant « Ah ben, quand j'entends Jonas, je crois entendre qu'il a dit « Vous êtes tous foutus ». Pour essayer de trouver réponse à cela, le mieux, parce que Jonas est un sacré personnage quand même. D'ailleurs, c'est presque plus lui qui se fait reprendre dans tout le récit que les Ninivites, bien que. Regardons à la réaction des habitants de Ninive, les Ninivites. La réponse, nous l'entendons bien sûr un peu plus loin dans le récit, dans la réaction qu'ils vont avoir, à commencer par le roi de la ville. Alors, cela se trouve un peu plus loin, Jonas 3, versets 5 et 6, juste après le verset 4, qui était vraiment ce message qu'on entend de la bouche de Jonas adressé aux habitants de Ninive. Donc tout de suite vient la réaction. Et voilà ce que ça donne. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, je crois que je l'ai mis en rouge, et quelle que fût leur condition sociale, ils se revêtirent d'habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal et se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Je n'ai pas tout souligné en rouge, tout était important bien sûr, mais ces éléments en rouge disent quelque chose d'important. Tout simplement, nous entendons que et les Ninivites, et plus encore leur roi, si on peut dire plus encore à propos de lui, étant donné sa responsabilité dans tout ça, tous se repentent du mal qu'ils ont commis, de ce mal qui était parvenu à Dieu. De ce mal qui l'avait amené dans une colère au point qu'il était prêt à détruire toute cette ville. Est-ce là ce que Dieu attendait plus que toute autre chose? Quand je dis est-ce là, je parle de la repentance des gens de Ninive. Est-ce que pour Dieu, ce qu'il voulait faire, c'était détruire la ville, ou est-ce qu'il attendait, c'était la repentance des Ninivites? Quitte à détruire la ville. Voyez un petit peu? Je repose encore la question, mais pour bien saisir, parce que si on affirme que Dieu change, mais qu'on entend qu'il change d'avis, il va falloir quand même résoudre l'équation. Là, il y a un problème. Pour les matheux, en tout cas. Sa volonté était-elle de détruire Ninive? Il s'était résolu à le faire. Je ne les supporte plus, je vais les détruire. Par contre, je leur annonce quand même, histoire qu'ils aient peur. Ça aurait pu être ça, hein? Ou ce qui s'est passé chez eux voudrait que je les détruise, mais je veux les avertir. Aussi, je leur envoie un prophète. Bon, en plus, il s'en va, donc je le reprends et je le leur envoie à nouveau. Parce que le guerrier ne veut pas y aller. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Dans ce livre, dans ce récit du livre de Jonas, ce qui est intéressant, c'est le paradoxe qu'est Jonas lui-même. Notamment dans la réponse qu'il a l'air d'apporter suite à la repentance des gens de Ninive. Autant déjà le message qu'il adresse me semble un peu trouble. Je ne dis pas qu'il trahit Dieu dans la manière dont il dit, mais l'accent qui est porté dans le récit est plus sur la destruction de la ville, non pas sur l'appel à la repentance. On ne l'entend pas trop dans ce que dit Jonas. Mais plus encore, ce qui est troublant et ce qui nous marque, c'est ce que dit Jonas une fois que toute la ville se repent. Voilà le passage, chapitre 4. On est déjà dans le dernier chapitre du récit. On survole Jonas ce matin, mais on prend les éléments qui nous semblent intéressants pour nous dans la question que nous nous posons. Je lis avec vous. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. Lui aussi il prie, hein, mais en colère cette fois. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit que j'étais encore dans mon pays. Et c'était pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. » Il avait de bonnes raisons de fuir, en fait, hein, Jonas, d'après lui en tout cas. « Car je savais que tu es un Dieu, et attention, ça fait mal, hein, plein de grâce et de compassion. » C'est pour ça qu'il se met en colère, hein, Jonas. Il est en colère parce que Dieu est plein de grâce et de compassion. Lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Voilà la prière de Jonas. On l'apprécie comme on veut, hein. On va pas en discuter trop ce matin. Mais ces mots, dits sous la colère par Jonas, nous apportent un bon élément de réponse à la question que nous nous posons ce matin. Je vous ai mis, bien sûr, j'ai encore joué de rouge un petit peu pour faire sortir ce qui me semble pertinent pour nous. Qu'est-ce que nous entendons ? Jonas, comme il le fait entendre dans le début, c'est un reproche, plus ou moins, Jonas connaît son Dieu, en partie. Mais il sait les choses d'une manière sûre à propos de Dieu. Et il connaît la volonté de Dieu pour Ninive. Même si son message laisse entendre quelque chose d'autre. Je parle du message de Jonas, hein, pas celui que Dieu lui avait transmis. Non pas que Dieu voulait punir ses habitants coûte que coûte, mais il avait choisi ou décrété qu'il pardonnerait à ceux qui viendraient à se repentir. Or, et c'est ce qui déplaît à Jonas, lui peut-être il espérait voir la destruction de Ninive en fait. Allez savoir, on va pas discuter trop non plus là-dessus. Or, c'est ce qui arriva. Ninive, pour un temps, s'est repentie de ses fautes. Ninive a ouvert ses oreilles, a entendu le message adressé par Jonas de la part de Dieu, qu'il a été dit, mal dit, peu importe, ils l'ont entendu, et se sont repentis. Aussi, la catastrophe annoncée par Jonas, dans 40 jours, n'est pas le reflet de la volonté première de Dieu. Et ce qui fâche Jonas n'est pas un revirement soudain. Dieu se dit, oh, ah, ils m'ont surpris les Ninivites. Là, tout d'un coup, ils se repentent. Je ne m'attendais pas à ça de leur part. Ok. On change les plans. On arrête la destruction qui était programmée. Là, on fait un petit reset sur le programme informatique et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas ça qui s'est passé, bien évidemment. Qu'est-ce qui a changé au bout du compte, pardon ? Car il y a bien eu un changement. Il y a eu, dans tout ce récit de Jonas, un changement important. Avez-vous vu où il a eu lieu ? Ou mieux même, pour poser la question d'une manière plus adroite, pour ne pas trop vous laisser dans le flou, qui a changé dans tout ce récit ? On exclut un peu Jonas, hein, il ne nous intéresse pas trop, il est assez ambigu comme personnage, ou paradoxal. Mais qui a changé ? Tout simplement, si ce n'est pas Dieu qui a changé, on l'a affirmé tout à l'heure et maintenant on essaye de s'accommoder avec d'autres éléments de récit qui pourraient dire le contraire. Si ce n'est pas Dieu qui a changé, restons sur ce qui nous semble sûr. Jonas, on le met entre parenthèses. Mais ce sont bien les Ninivites et leur roi qui, eux, ont profondément changé par la repentance qu'ils ont eue et manifestée. Ils ont changé, se sont laissés transformer par la parole de Dieu à leur égard, même si c'était une parole très dure. Elle leur promettait une forme d'éradication. Le changement et la transformation qui a eu lieu est en fait celle de la repentance de ces hommes, de tout ce peuple même. C'est là où il y a eu changement. En Dieu, il n'y en a pas eu. Pour clore notre illustration avec Jonas, nous pourrions résumer cela ainsi. Le récit de Jonas souligne que Dieu avait plus que tout décrété qu'il pardonnerait à ceux qui se repentent. On ne l'entend pas, mais il est question d'une menace qu'il doit adresser, non pas d'un verdict de mort, une menace. Une menace est pour réveiller quelqu'un. Quand deux pays, quelque part, ne s'entendent plus et que l'un commence à menacer l'autre, c'est pour lui dire « Attention mon coco, si tu vas trop loin ou si tu commences, par exemple, à lancer des missiles nucléaires au-dessus de ma tête, on ne va pas s'entendre. » Je fais, par exemple, référence à des exemples récents. Heureusement, ça n'a pas été trop loin, jusqu'ici. On sait à quel point le monde est aussi fou. Mais Jonas était là pour annoncer une menace. Pas une parole qui, quelque part, disait définitivement « vous êtes foutus ». Voilà. Et ce qui semble être un changement d'avis chez Dieu, il était prêt à raser la ville, bien sûr que oui, il était prêt à raser la ville. Mais ce qu'il voulait était autre chose. Il n'a pas détruit Ninive. Et ce qui semble être un changement d'avis chez Dieu n'est en fait qu'une réalisation de son décret de pardon. Autrement dit, le Seigneur n'a pas du tout changé d'avis vis-à-vis de Ninive. Avant qu'il envoie Jonas, et une fois que Jonas avait accompli sa mission, même quand Jonas se met en colère, Dieu n'a pas changé d'avis, selon moi. Mais les hommes en question, eux, oui, ont changé. En faisant, eux, un véritable demi-tour par la repentance qu'ils ont manifestée. Elle devait être sincère parce que Dieu a vraiment arrêté toute chose. Et c'est cela qui permet à Dieu d'agir continuellement et conformément à sa volonté première. Pardonner à ceux qui se repentent de leur mauvaise conduite, par exemple. Et c'est ici que nous trouvons la clé, un petit peu par rapport à notre question première. Dieu peut-il changer d'avis? Ou Dieu change-t-il d'avis, très simplement? Ici, dans ce qui s'est joué entre les Ninivites et Dieu, je mets Jonas de côté, il n'est qu'un intermédiaire, un intermédiaire bizarre. Mais c'est ce qui se joue entre les Ninivites et Dieu qui est important pour nous, là. Et nous voyons là la clé, ce qui nous manquait, à propos de ces changements apparents en Dieu. On croit voir Dieu changer d'avis, oulala, je me ravise, ils ne sont pas si mauvais, je ne vais pas les détruire. Il n'en est pas question, ce n'est pas ce qu'il avait voulu. Le changement, comme je l'ai dit, a lieu chez l'homme. Et Dieu est dans cette attente. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il envoie Jonas. Pourquoi aller prévenir des gens qu'il va les détruire? À Sodome, ils n'ont pas été prévenus d'ailleurs, rappelez-vous. Il n'y a juste que Lot et sa famille qui a été extirpée de la ville, mais il n'a pas eu besoin de les prévenir. Là, il y avait certainement eu déjà une résolution. Dans ce qui s'était dit entre Abraham et lui, Abraham espérait quelque chose. Même en négociant soi-disant, il n'en est pas question, hein, mais Abraham, lui, espérait cela. Abraham n'avait peut-être pas la réponse quand les anges sont partis, mais Dieu savait même, avant que Abraham ne prie, ce qui allait se passer. Parce qu'il savait déjà à quel point cette ville était perdue. Par contre, il attendait d'Abraham quelque chose. Mais on ne va pas forcément en discuter ce matin, il faudrait reprendre ce texte de Genèse 18. Mais comme je vous l'ai dit, le changement ne se retrouve pas en Dieu, il se retrouve en l'homme. Et Dieu est dans cette attente, dans cette patience de nous voir, nous aussi, pour autre chose. Nous ne sommes pas des habitants de Ninive apparemment, de nous voir le rejoindre dans sa volonté. Sa volonté pour les gens de Ninive, c'est « repentez-vous ». Sa volonté pour nous peut être encore différente aujourd'hui, en fonction de là où nous en sommes dans notre vie avec lui. Sa volonté est de nous voir revenir et nous conformer à lui, à ce qu'il désire pour nous. Aussi, venons-en et reprenons maintenant que nous avons, je l'espère pour chacun d'entre nous, des éléments un peu plus solides pour avancer sur cette question de « Dieu change-t-il d'avis dans ma relation ?» dans cette relation que j'ai avec lui, notamment quand je le prie. Donc revenons à la question que nous nous étions posée plus tôt, celle que je désirais me poser avec vous ce matin. Dieu change-t-il d'avis quand il répond à ma prière? Une prière qui se tournait vers lui depuis parfois même de longs mois, voire de longues années. Oups, ah bon, ça, c'est déjà du vieux, désolé, je ne vais pas assez vite. Voilà, et là tout apparaît. Bon. Si Dieu ne change pas, comme nous l'avons affirmé, on l'a entendu chez Malachie, chez Jacques, on aurait pu aller prendre plein de passages. Dieu n'a pas l'ombre d'une variation en lui. Je garde cette expression de Jacques que j'aime beaucoup. Il en est de même au sein de notre relation intime avec lui, de notre relation de prière avec lui. Je ne peux espérer, moi, par ma prière, faire changer Dieu, et encore moins le faire changer d'avis. Disons-le autrement, dans notre relation de prière avec lui, alors je ne sais pas si je vous choque ce matin, il se peut. Peut-être étiez-vous persuadé que voilà, votre prière faite avec foi, avec grand cri même peut-être, allait changer Dieu. Et non, ce n'est pas ce que je crois. Dans notre relation de prière avec lui, l'important n'est donc pas d'espérer un changement chez Dieu, qu'il me rejoigne dans mes appréhensions, dans mes questionnements, ou dans mes souhaits, mes désirs profonds, bref, tout ce qui est moi, ce que j'essaye de lui dire. Non, l'important n'est pas là. L'important n'est pas de croire en la possibilité chez nous de pouvoir faire fléchir ou infléchir la volonté de Dieu à notre égard, juste à notre égard, hein, je ne parle pas pour le reste du monde. Hein. Ne soyons pas trop ambitieux quand même, on n'est pas si fort que ça. Mais ne serait-ce que pour moi. Parfois, on en est encore persuadé, ne serait-ce qu'inconsciemment. Il n'est pas de savoir si Dieu change d'avis, mais si nous sommes d'accord de changer notre regard, notre avis, pour que sa volonté, et non la nôtre, se fasse dans notre vie. C'est là tout le dilemme, en fait. C'est là presque tout l'enjeu de notre croissance spirituelle, notamment dans notre vie de prière. Pour le dire encore autrement, l'enjeu n'est pas de savoir, et je me répète un peu, mais de savoir si Dieu change d'avis, mais si nous désirons que son royaume s'établisse, non pas dans le monde autour de nous, ça, vous en faites pas, il se fera avec nous ou sans nous. Parce que Dieu, de toute façon, fait toutes choses. Mais aussi, et là, quelque part, il a besoin que nous obtempérions, de savoir si nous voulons et nous désirons aussi que son royaume s'établisse au plus profond de nous-mêmes. Dans ce que je vais appeler, pourquoi pas, le monde de nos idées, le monde de nos désirs. Désirons-nous que son royaume s'établisse plus encore au plus profond de nous-mêmes, pour que quelque part dans notre vie de tous les jours, dans notre relation de prière avec lui, nous puissions justement retrouver sa volonté et être dans une prière qui quelque part s'adresse à lui dans ce que lui déjà désire pour nous et donc nous de le rejoindre. Et les habitants de Ninive, c'est ce qu'ils ont fait. Alors c'est vrai, c'est très basique, c'était une demande de repentance. Vous avez péché, repentez-vous. Ils le font. Mais ils rejoignent sa volonté. Et Jonas en est loin, lui, à ce moment-là. Et c'est certainement pour cela que Dieu prend patience avec nous, parfois, pour nous répondre. Si Dieu prend patience, c'est à l'image de petits-enfants qui, parfois, en font qu'à leur tête. Ou écoutent à demi-mot ce que nous leur demandons. Essayer de faire, d'accomplir, d'être, etc. Tous les changements que nous espérons en eux pour qu'ils grandissent, prennent de la maturité, ne se mettent plus en danger ou évitent de se montrer de telle manière ou telle autre. Oui, Dieu prend patience avec nous car il espère nous voir grandir. Il espère nous voir le rejoindre plus encore pour goûter à la présence de son royaume au plus profond de notre être. Et non pas seulement chez les autres. Que très souvent, quand on dit « Seigneur, que ton royaume vienne », on l'espère le voir autour de nous. C'est bien aussi, hein. N'hésitons pas à prier pour cela, que son royaume s'établisse. Mais n'en oublions pas qu'il doit s'établir au plus profond de nous-mêmes. Et juste de vous poser la question ainsi, on va faire un petit quiz sur une question, hein, vous en faites pas, petit quiz biblique. Tout à l'heure, je vous ai dit, la réponse à notre question n'est donc pas d'imaginer que Dieu peut changer d'avis dans ma prière, notamment, mais qu'il espère que moi-même je change, je me rapproche de lui, au point que mon regard, mon avis, recherche sa volonté, y compris dans ma prière. Que je désire faire sa volonté et non la mienne. Qui n'a pas eu un jour, personnage biblique, célèbre, ça va, je vous facilite la vie, hein, dans sa prière à une prière comme cela aussi, dans un moment difficile. Il disait « Père », comme nous le disons d'ailleurs. Et il demande vraiment « Aide-moi, non pas à faire cela », et encore ce n'est pas tout à fait cela qu'il dit, on voit très bien qu'il va le faire de toute façon, mais que ce soit ta volonté et non la mienne. Qui le dit ? Alors les deux ou trois là, non, vous n'avez pas le droit, voilà, Simon, c'est Jésus, dans sa prière avant de se faire prendre par les gardes du temple. Il sait exactement ce qu'il attend parce que lui qui, dans cette relation parfaite avec Dieu, connaît exactement le calendrier à venir. Il n'est pas surpris de ce qui s'annonce. Mais en lui aussi, il y a une souffrance terrible qui se joue là. Et cette souffrance, quelque part, il l'a dit à son père. Mais il lui dit, je vais faire ta volonté, même si ça ne m'est pas facile. Et c'est là, on voit, il serait facile de dire toute la maturité de Jésus, bien évidemment. Mais quelque part, cette prière est pour nous aussi significative. Elle nous dit aussi ce que peut devenir notre prière, à force de grandir à ses côtés. Oui, Dieu espère nous voir grandir, il espère nous voir le rejoindre plus encore pour goûter à la présence de son royaume au plus profond de notre être, et non pas seulement chez les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette réalité du royaume est cette réalité dont il veut nous faire grâce, et dans laquelle il veut nous voir grandir et prospérer. Et croyez-moi, on est tous en chemin là-dessus. Certains ont quelques marches d'avance, mais du moment que nous désirons cela et que nous avançons, Dieu va nous pousser à cela. Il va nous inviter, quitte à nous faire passer par des épreuves aussi. Mais qu'en est-il alors de ce que nous remettons entre ses mains par la prière ? Ce sont des questions que je nous pose, à laquelle je vous invite à réfléchir sans donner de réponse là maintenant, mais qu'en est-il de notre attente quand nous remettons toute chose par la prière à notre Seigneur ? Venons-nous avec la certitude de savoir aussi bien, si ce n'est même peut-être, entre parenthèses, mieux que Dieu lui-même, ce qui est bien et ce qui devrait être dans ma vie ? Est-ce que nous venons parfois avec cette arrogance inconsciente ? Certainement encore un peu. On demande à Dieu des choses que parfois Dieu ne va pas nous offrir. Où venons-nous, autant que nous le pouvons, dans l'humilité de la foi ? La foi, ce n'est pas quelque chose qui brave Dieu. Hein. C'est quelque chose qui vient humblement devant Dieu. Parce que parfois, on confond foi avec une espèce d'arrogance. « Je suis fort, Dieu, regarde-moi, je te prie de toute ma force. » Ce n'est pas ça, la foi. Je l'entends pas comme ça, en tout cas. Peut-être que je me trompe. Hein. Allez vérifier, hein. Comme je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais venons-nous dans l'humilité de la foi et dans la volonté de se mettre à son écoute pour que notre prière se mette au diapason de sa volonté pour nous. Alors bien sûr, dans ce questionnement, je pense vous donner la réponse à cette question que nous nous sommes posée tout à l'heure. Dieu change-t-il d'avis ? Y compris dans cette relation que j'ai avec lui dans ma prière. Et cette humilité de la foi, celle qui désire venir, non pas juste parler à Dieu, comme le ferait un pasteur, il parle trop, puis tout d'un coup vous n'arrivez plus à lui parler, j'espère pas quand même. Mais est-ce que dans notre prière, nous sommes tels des petits pasteurs qui en oublient quelque part qu'à un moment il faut s'arrêter pour écouter ? Voire même, il serait même plus sage de commencer par écouter, longuement écouter, pour pouvoir lui parler, parce que peut-être notre parole sera plus sage aussi. N'est-ce pas là la voie sur laquelle nous sommes invités à cheminer, la voie de la maturité chrétienne, celui de la foi véritable ? Un chemin parfois difficile, car notre « je » vient affronter celui qui est. Et notre « je » à côté de celui qui est n'a pas grande force, même si parfois il se croit à égal. Oui, un chemin, comme je l'ai dit, parfois difficile, parce que notre jeu vient affronter celui qui est, tout en faisant parfois même la sourde oreille tel un jeune enfant. Mais ce chemin, où nous, quelque part, nous venons pour écouter, discerner la voix de Dieu, pour moi, même dans ma prière, est un chemin, croyez-le-moi, je pense que nous l'expérimentons plus ou moins chacun, mais c'est un chemin vivifiant car il nous mène à la rencontre du Père Céleste et nous permet de nous approcher plus encore de lui pour demeurer dans son intimité. C'est à l'image, permettez-moi de finir là-dessus, à l'image d'un couple qui fonctionne plutôt bien. Un couple qui fonctionne plutôt bien, c'est un couple qui s'écoute, principalement. Il y a d'autres choses, mais qui s'écoute. Où l'autre, quelque part, ne vient pas avec son ego écraser celui qui est en face, même gentiment. Où l'autre cherche avant tout à écouter celui qui est en face de lui, ce vis-à-vis, pour connaître ce qu'il désire, afin de pouvoir, dans cette relation que je partage avec lui ou elle, essayer de répondre à ce désir. Et bien avec Dieu, ça devrait être pareil. Il est plus que tout notre vis-à-vis. Il n'y en a pas d'autre mieux que lui. Et je pense qu'il nous aime profondément, nous désirons l'aimer, mais nous pouvons parfois l'aimer comme de tout petits enfants. Or, attention, hein, je ne suis pas en train de qualifier les petits-enfants comme de très mauvais exemples. Ils peuvent nous faire des dessins qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ils nous disent tout notre amour. Et nous faisons cela avec Dieu, et je sais qu'il nous aime pour ce que nous faisons, même si c'est peut-être un peu brouillon encore. Mais il nous aime, tel un père. Mais parce qu'il nous invite à grandir aussi, il nous invite à l'écouter davantage. À essayer de rejoindre ce qu'il désire pour nous. Aussi, n'attendons pas que Dieu change pour nous, mais essayons-nous de l'écouter, de l'entendre, pour quelque part nous laisser changer. En plus, il ne va pas nous demander de nous transformer de nous-mêmes, nous en sommes incapables. Il va nous y aider. Et c'est là tout le merveilleux plan que Dieu a pour nous, parce qu'il le fera par grâce. Il ne nous demande pas d'efforts surhumains pour cela. C'est pour ça même, le qualifier de père, parfois, n'est pas une image qui me suffit. Je me connais père, et je vois où je suis imparfait en tant que père. Mais lui, notre père qui est parfait, absolument parfait, peut nous aider à cela. Maintenant, il nous faut au moins commencer par l'écouter, et après lui faire confiance, et entrer dans cette relation où nous cherchons à connaître sa volonté. Et parfois, c'est même plutôt à partir de là que nous allons voir, entre guillemets, des exploits s'accomplir dans notre vie, qu'ils soient grands ou petits, c'est pour ça que je mettais des guillemets. Inclinons-nous maintenant un instant. Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux de savoir que toi qui es plus que parfait ne viendras jamais à changer. Merci car cela nous garantit ce que tu es et tu resteras. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui aime parfaitement, tu continueras de nous aimer parfaitement. Toi le Dieu fidèle, tu continueras de rester fidèle parfaitement. Et Seigneur, invite-nous maintenant aussi à nous avancer vers toi plus encore, à désirer mieux te connaître. Pour que dans notre relation à toi, nous ne soyons plus dans parfois cette ignorance, dans cette forme d'incrédulité qui désirons parfois te transformer, te changer, nous faire venir vers nous dans ce que nous désirons et qui n'est pas conforme à ta volonté. Mais Seigneur, montre-nous, parle-nous au plus profond de nous-mêmes, pour nous montrer non pas seulement qui tu es, mais ce que tu désires pour nous. Seigneur, oui, tu es ce Dieu-là, ce Dieu qui n'a de cesse de vouloir nous parler, nous interpeller, et tu le fais jour après jour, Merci pour cette parole aussi que tu nous as confiée et donnée, que nous pouvons ouvrir à tout moment et qui nous permette de te révéler à nous, mais de révéler aussi ce que tu désires pour nous. Seigneur, que tu puisses, oui, transformer notre cœur, notre intelligence, afin que quelque part elle ne soit plus forcément dans la revendication, mais dans l'écoute de ta volonté. Montre-nous encore comment tu veux nous voir grandir et parvenir à plus de maturité pour ne plus être des tout petits enfants, mais des enfants sur le chemin de la maturité. Seigneur, merci car tu es Père pour nous. Tu es Père et tu nous aimes. Et tu désires encore avec patience nous voir grandir. Merci parce que tu continues de nous accueillir et de nous aimer malgré nos errements, nos difficultés, nos caractères parfois incompatibles avec ce que tu désires pour nous. Mais merci Seigneur parce que tu es un Dieu saint, un Dieu présent par la voix de ton Esprit Saint en nous. Un Esprit Saint qui, lui aussi, tel que toi Père et tel que toi aussi notre Seigneur, désire nous transformer et nous rendre plus semblables à toi. Et toi notre Sauveur, toi le Fils bien-aimé qui est monté à la croix, toi qui a eu cette prière qui manifeste ce que nous pourrions devenir dans cette relation avec toi aussi, Père. Montre-nous encore à chacun, éclaire-nous encore sur ce que tu nous appelles à vivre et à devenir en demeurant avec toi. Amen. Juste avant de laisser la place à Cédric qui va nous conduire dans la fin du culte, alors, de vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qui avait été annoncé par Gabriel, parce que beaucoup de personnes nouvelles sont arrivées depuis que nous n'avions pas eu un culte comme celui-là, puisque le dernier était en juin et puis il y avait eu le week-end d'église, mais qui était d'un modèle un peu différent. Nous aurons donc mardi, en lieu et place de l'étude biblique, possibilité de continuer par rapport à ce que je viens de partager avec vous, mais d'être beaucoup plus dans l'échange. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez là mardi à 20h. Et nous profiterons de continuer de partager autour de cela. Et moi et Simon, nous serons là pour vous aider. Autre chose, toujours par rapport à ces temps de culte particuliers qui ont lieu en général une fois par mois, le troisième dimanche du mois, ce qu'on appelle les cultes « la foi en question », il n'y en aura pas au mois de décembre. C'est un mois déjà chargé en choses importantes que nous pourrions partager pour glorifier le Seigneur. Donc, nous serons dans ce temps de l'Avent, plus que tout. Par contre, sachez que dès le mois de janvier, nous retrouverons aussi ce temps habituel, le troisième dimanche du mois. Que ce soit ou moi, ou Simon, ou Jean, nous viendrons à partager autour d'autres questions. Croyez-moi, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on va continuer encore nous-mêmes de circonscrire les questions qui nous semblent importantes pour les mois à venir, afin de partager, et nous l'espérons surtout, de vous aider, de nous aider tous d'ailleurs, à avancer dans cette foi. Si bien sûr vous avez aussi des choses à nous redire, venez nous voir, nous sommes tout ouïes pour vous écouter. Voilà, je te laisse la place.